La rouscaille.
Ah, tout, tout, tout. Aïe, ah, tout, tout, tout. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe.
La Rouscaille.
Bienvenue sur La Rouscaille. Cette semaine, nous avons choisi de traiter le thème pour un amour non narcissique, ou des éléments pour un amour non narcissique. Il faut d'abord tenter de définir ce qu'on pourrait entendre par le narcissisme et pourquoi est-ce qu'on souhaite définir cet amour sans narcissisme. Le mythe de Narcisse, vous le connaissez très certainement, c'est donc un jeune homme qui tombe amoureux de sa propre image quand il est en train de s'observer dans un lac. Il voit son image et il tombe amoureux de lui-même. Et alors cette image de Narcisse qui tombe amoureux de lui-même, on peut la reprendre au sujet de l'amour. C'est-à-dire que Narcisse qui tombe amoureux finalement d'autres choses que de lui, donc dans ce lac qui pourrait être défini comme l'autre, on peut également voir ça en amour. C'est-à-dire que en regardant une personne, finalement, ça serait soi-même qu'on regarde, ou soi-même en train d'aimer, ou même sa propre image en train d'aimer. C'est cette idée que l'amour serait finalement rien d'autre que s'aimer soi-même en l'autre. Alors, ce qu'on voudrait essayer de traiter aujourd'hui avec vous, c'est de savoir s'il existe un amour qui échappe à ce ressort, c'est-à-dire au ressort de vouloir se rehausser soi-même par l'intermédiaire de l'autre. La question qu'on peut se poser, du coup, c'est peut-on aimer sans s'attendre à être aimé ou à s'aimer soi-même dans l'amour ? Le narcissisme, on peut le définir de façon un petit peu générale comme ça, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a une dimension très contemporaine dans ce narcissisme. Et du coup, peut-être une forme également contemporaine de l'amour qui correspondrait à ce narcissisme contemporain. Un livre qui permet de comprendre ce narcissisme contemporain, c'est « La culture du narcissisme » qui a été écrit par Christopher Lasch en 1979. Dans ce livre, il s'intéresse en fait à la société américaine et plus précisément à la middle class américaine dans les années 70. Et Christopher Lasch va établir un lien entre disons les crises contemporaines et l'imaginaire un peu apocalyptique qui l'accompagne, c'est-à-dire cette idée de crise économique, de catastrophe écologique, de catastrophe nucléaire, qui en fait sont des thèmes et puis des images qui sont en permanence martelées aux individus. Il va établir un lien entre ça et le narcissisme. Il y a un excès d'informations et d'informations du coup apocalyptiques qui viennent surplomber l'individu et même l'étouffer entièrement, de telle sorte que l'individu n'est plus capable de faire une synthèse de ces différentes crises. Et cette absence de synthèse, en fait, mène l'individu à se replier sur lui-même et du coup à ne regarder plus que lui-même, ne regarder plus que ses propres problématiques à cause de ces crises. Alors je vous lis très rapidement un extrait de Christopher Lasch pour bien comprendre sa pensée. Alors il dit « Le désastre qui menace, devenu une préoccupation quotidienne, est si banal et familier que personne ne prête plus attention aux moyens de l'éviter. Les gens s'intéressent plutôt à des stratégies de survie, à des mesures destinées à prolonger leur propre existence ou à des programmes qui garantissent bonne santé et paix de l'esprit. » Voilà, donc cette idée du narcissisme contemporain comme étant un repli sur soi devant l'immensité du monde et puis une impuissance à agir sur le monde. Alors la question qu'on va essayer de se poser, c'est cette idée d'un repli sur soi qui irait jusque dans les relations amoureuses. C'est-à-dire que je ne concevrai plus que l'amour ou l'être aimé comme étant finalement une façon de me valoriser moi-même, enfin uniquement un rapport de moi à moi, où un autre intervient, mais où finalement l'autre n'importe pas tant que ça. Alors toi, tu voulais nous parler, disons, de ce besoin d'autonomie à l'intérieur de l'amour et également d'une forme de contradiction entre l'autonomie et le besoin d'amour dans notre monde aujourd'hui et puis en ce qui nous concerne, nous, plus précisément.
Oui, alors bonjour à tout le monde. Si on parle d'amour aujourd'hui à La Rouscaille, on en parle évidemment en ayant lu des livres, en s'y étant un petit peu intéressé pour préparer l'émission, mais on en parle aussi à partir de notre expérience et à partir de ce qui a été difficile et douloureux dans nos expériences amoureuses. Et donc c'est toujours quelque chose d'assez difficile de parler d'amour parce qu'on a souvent l'impression que on peut pas faire de grandes théories sur l'amour, tout le monde vit les relations amoureuses de manière singulière et d'une manière qui lui est propre. Et en même temps, on a remarqué en croisant nos expériences qu'il y avait un certain nombre de choses qui revenaient. Et c'est ça qu'on a voulu questionner. Et une des questions, une des choses qui revenait et qui était récurrente dans les relations d'amour et dès l'expérience qu'on avait des relations d'amour, c'est qu'il y avait au sein de l'amour une volonté de reconnaissance de la part de l'autre. C'est-à-dire qu'on cherchait à être comme validé par l'autre et une validation de soi. C'est Sartre, il dit à un moment dans une phrase, qui dit « L'amoureux exige d'être aimé. » Et s'il exige d'être aimé, c'est en cela aussi qu'il demande à être reconnu par l'autre comme une personne qui a de la valeur. La question de la valeur sociale en amour, elle est transversale et on la retrouve à toutes les époques. En cherchant un petit peu, on est tombé sur des manuels écrits à la fin du 19e et au début du 20e qui enseignaient aux garçons et aux filles comment faire la cour. Et une des choses marquantes de ces manuels, c'est que ce sur quoi ils insistaient énormément, c'était sur les codes de genre et les codes de classe, des règles de conduite, comment est-ce que le garçon devait se tenir, comment est-ce qu'il devait faire attention à mettre sa fourchette d'une certaine manière, ou encore comment est-ce que la fille devait être attention à ne pas paraître trop ceci ou trop cela. Enfin, il y avait vraiment l'importance des codes de classe et de genre qui étaient préexistants. C'est évidemment quelque chose qui n'a pas disparu. Il y a encore des questions de codes de classe et de reconnaissance de classe et de genre à l'intérieur même qui traversent nos rapports amoureux, ou en tout cas notre manière de se draguer, de se faire la cour. Mais on a eu le sentiment qu'il y avait quelque chose de plus encore aujourd'hui et qui était transversal à ces questions. C'était le fait qu'on cherchait en amour comme le sens de notre identité propre. On cherchait à travers les yeux de l'autre, à travers les yeux de la personne qu'on aime, une validation, une reconnaissance de ce qu'on est soi-même et de ce qu'on est en vrai. Être reconnu par la personne aimée comme ayant de la valeur, c'était une des caractéristiques principales peut-être de la relation moderne, mais c'est aussi ce qu'on a voulu chercher à lier avec justement la question du narcissisme. Pourquoi essayer de lier cette question avec celle du narcissisme? C'est difficile, c'est une intuition, mais on s'est dit, et c'est ce que disait tout à l'heure la présentatrice, qu'il serait intéressant peut-être de chercher un amour non narcissique. Pourquoi ça serait intéressant? Premièrement, évidemment, c'est intéressant pour nous parce que notre manière de poser des questions, c'est, comme je disais tout à l'heure, en partant de notre expérience et du fait qu'on a souffert de ne pas se sentir assez reconnu dans les relations d'amour, ou de sentir que même la personne nous confère un rapport d'autorité, ça produisait aussi de la souffrance de la personne qui était comme contraint à avoir de l'autorité par la personne qui lui léguait cette autorité. Il y a aussi des textes et des citations, par exemple « La femme de Malraux ». Bon, quoi qu'on puisse penser de Malraux, il y a une phrase qui est assez étonnante de la part de sa femme, qui évidemment on ne connaît pas. Elle dit « Je n'ai existé que par Malraux, par sa figure médiatique, je n'avais pas d'accès au monde sans lui ». Partir de nous, ça signifie aussi que nous, le travail qu'on fait à la Rouscaille et ce qui fait que qu'on s'intéresse aussi à la politique, c'est qu'on refuse de parvenir dans le monde, qu'on cherche à refuser d'y trouver une reconnaissance sociale dans ce monde-là. Parce qu'évidemment, le monde, pour un certain nombre de raisons que nous avons largement le temps de déployer dans d'autres émissions, c'est un monde que nous détestons, que nous ne chérissons pas. Donc nous ne voulons pas y être reconnus par lui. Et le fait, d'une certaine manière, de refuser d'être reconnu dans le monde comme ayant une importance, le fait de ne pas vouloir trouver une place dans ce monde-là parce que nous voulons lutter contre lui, ça fait aussi qu'on a peut-être surinvesti dans notre expérience la question de la relation amoureuse. Alors évidemment, la question de la valorisation dans la question amoureuse, c'est une question qui est difficile à prendre. Comment est-ce qu'on peut l'apprendre sans tomber dans des clichés ou sans dire des banalités? Je ne sais pas très bien, mais une des choses qu'on peut voir de par nos expériences et de par les textes, c'est que le fait de vouloir toujours être reconnu par l'autre, ça provoque une angoisse fondamentale dans notre relation. Une angoisse fondamentale dans nos relations parce qu'on a toujours peur que l'autre ne nous reconnaisse pas assez. Ou alors qu'on soit trop insistant, qu'on dise trop « je t'aime, je t'aime, je t'aime » quand l'autre et la peur d'étouffer l'autre, que l'autre dise « ah, mais j'ai peur de m'engager autant que ce que tu m'aimes ». Et que tout ça, ça provoque comme une sorte d'économie à l'intérieur de l'amour. Il faut réussir à trouver la distance juste. Mais sauf que nos manières de trouver la distance juste, c'est souvent en essayant de pas trop brusquer l'autre, pas trop essayer d'être reconnu par lui comme étant valable, essayer de d'avoir, en somme, une performance du moi, chercher à rester désirable, étonner son partenaire, ne pas trop en faire, ne pas trop en dire. Et évidemment, du coup, il y a une littérature énorme qui s'est développée autour de ces questions amoureuses. Aujourd'hui, tout le monde ne parle que d'amour, et nous-mêmes, on en parle. Mais il y a énormément de livres qui parlent du sexe, de comment aimer, il y a des manuels du polyamour, de comment aimer plusieurs personnes en même temps. Il y a des tonnes de manuels qui nous expliquent comment est-ce qu'on peut aimer. Nous, on ne cherche pas à faire un manuel, on cherche juste à dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour pas que l'amour, ça soit simplement un lieu d'autocontrôle infini, d'un côté, et puis comment faire aussi pour que la question de la valeur que l'autre nous donne ne soit plus la question centrale. Parce que tout ça, ça provoque énormément de souffrance. Ça provoque une souffrance parce qu'on n'est jamais assez bien, on n'est jamais assez ceci, assez cela. La question de la souffrance en amour, en cherchant un peu dans les livres, encore une fois, on s'est rendu compte qu'elle s'était exprimée absolument différemment selon les époques. Ainsi, par exemple, l'amour des troubadours, qui est un amour fondamental pour l'histoire et la culture amoureuse de l'Occident, c'était un amour qui idéalisait l'être aimé et transfigurait en fait la souffrance du manque de l'autre, c'est-à-dire que c'était un amour dont il fallait quasiment ne jamais voir la personne aimée, on l'idéalisait, on aimait l'image de l'autre aimé, et on l'aimait pas réellement, et que la souffrance en fait était considérée comme une expérience noble. Par exemple, une citation d'un troubadour, je trouve la souffrance d'amour si plaisante que, même si je sais qu'elle est destinée à me tuer, je ne désire ni n'ose vivre sans madame, et moi encore voir ailleurs, car elle est telle que je tirerai grand honneur simplement à mourir comme son ardent amoureux. Voilà, on voit qu'il y a une sorte de sublimation de la douleur, que la douleur est considérée comme étant le comble de la relation amoureuse. Aujourd'hui, on ne peut plus croire que ce soit pareil. Enfin, on n'a pas le sentiment que c'est pareil. Aujourd'hui, on a l'impression plutôt que la souffrance n'est pas un sentiment noble, un sentiment vertueux, mais qu'au contraire, c'est un signe de faiblesse, quelque chose à dépasser, une dégradation justement de la valeur de soi, une dégradation de l'image qu'on a de soi-même. C'est un passage possible, voire obligé dans les relations amoureuses, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va valoriser, et peut-être heureusement d'ailleurs. Mais alors il y a un paradoxe qui nous travaille et qui n'a cessé de nous travailler, c'est celui justement de l'autonomie et du besoin d'amour. Parce que, évidemment, le désir d'exister seul face au monde d'un côté, de réussir à faire le monde, à exister face au monde sans être médié et reconnu par la personne aimée, c'est un désir qui nous travaille. Comment on fait pour exister individuellement dans le monde, pour avoir une pensée propre, un caractère propre? Et en même temps, c'est rentre en contradiction, ou en tout cas, c'est difficile, le lien est difficile à faire avec le fait qu'on cherche à être reconnu dans une relation amoureuse comme ce qu'on est vraiment, comme ce qu'on est réellement. Distinguant d'ailleurs entre ce qu'on est dans le monde social, qui serait un être faux, un personnage social, et puis ce qu'on est dans la relation amoureuse, qui est la vérité, la véridiction de ce qu'on est, comme si notre être était scindé en deux, comme ça, comme si le lieu de l'amour était le lieu où on doit aimer la personne pour ce qu'elle est malgré tous ses défauts, et puis le lieu du monde, c'est le lieu où tu dois paraître fort, tu dois paraître quelqu'un avec un caractère qui t'est propre, tout ça, mais en tout cas qu'il y a une scission entre les deux personnages. Cette scission interne en nous, elle est difficilement vivable, et c'est une des raisons, à notre avis, ou à mon avis, qui fait que les relations amoureuses sont compliquées aujourd'hui. Et peut-être que c'est le premier matériau pour un amour non narcissique.
Je te coupe un tout petit peu, mais est-ce qu'il y a un lien du coup entre cette autonomie et ce qu'on a appelé le narcissisme, ou ce besoin de cette envie d'autonomie et cette dimension narcissique, à ton avis?
Mais en tout cas, ce qui est notable, c'est que d'une certaine manière, on sent que la relation face au monde et la reconnaissance par le monde ne satisfait pas notre désir de reconnaissance et n'est pas suffisant. C'est ce qui fait qu'il y a quand même une centralité, et je pense une centralité énorme aujourd'hui de la relation amoureuse, c'est que le fait de réussir à se réaliser à travers une carrière, à travers un métier, à travers des activités comme faire de la radio ou je ne sais quoi, ça ne suffit pas à combler notre désir narcissique, et qu'on en on a besoin de quelque chose en plus, qui est justement la relation amoureuse. Et c'est peut-être parce qu'on sent qu'à chaque fois qu'on est confirmé par le monde comme étant quelqu'un qui a de la valeur et comme quelqu'un qui vaut quelque chose, on l'est pour des choses que l'on n'est pas vraiment, puisque justement on est tout le temps en train de jouer un jeu jouer un rôle, un personnage. Et donc, au fond, la relation amoureuse est le lieu où le narcissisme se met en place également, parce que l'aimer est censé être celui qui t'aime pour ta propre valeur, pour ce que tu es vraiment, pour ta faiblesse, pour ta capacité à pleurer, pour ta capacité à t'énerver. Tout ce qui est interdit, évidemment, dans le monde. Donc nous disons qu'il y a un paradoxe entre l'autonomie d'un côté et le besoin d'amour. Alors pourquoi il y a un paradoxe? Ça ne semble pas aussi nécessaire que ça soit un paradoxe, mais c'est parce que, comme je disais, d'un côté on a envie d'exister sans être médié ou sans que notre rapport au monde soit uniquement médié ou médiatisé par notre rapport à notre amoureux ou à la personne qu'on aime. Et en même temps, de l'autre côté, on a besoin d'un rapport de dépendance, on a besoin d'être reconnu, on passe notre vie à chercher des histoires d'amour. Il y a des tonnes de sites qui montrent à quel point, quand tu n'as pas d'histoire d'amour, tu es moins que rien dans cette société. C'est à la fois, d'un côté, il y a un culte de l'individualisme qui est déployé et qui fait floresse, et de l'autre côté, il y a un marché énorme qui se déploie sur avoir des relations d'amour. Et ça, c'est une contradiction qu'on peut trouver à l'intérieur de la société. C'est intéressant, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver à l'intérieur de nous. D'un côté, on a envie de pouvoir exister seul et autonome, et de l'autre côté, on a besoin d'exister dans la dépendance à l'autre, dans un rapport confortable aussi, d'une certaine manière. Une manière d'exister un peu moins seul. Alors là encore, il y a encore une économie qui se met en place. Comment ne pas paraître trop dépendant de l'autre, comment ne pas le faire fuir avec un désir excédentaire. C'est souvent d'ailleurs genré tout ça, c'est souvent les femmes qui aiment trop. Il y a un livre qui s'appelle comme ça, La femme qui aime trop. Parce que la femme, elle cherche dans l'imaginaire, évidemment, ça ne signifie pas que c'est des caractéristiques qui se retrouvent partout. C'est celle qui veut beaucoup, 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 là où l'homme aurait plutôt une capacité à être plus simple, à assumer plus facilement le fait d'avoir un rapport au monde indépendant. Et alors, une fois le moment de la fusion amoureuse terminé, une fois le moment où nous sommes qu'un, les raisons qui faisaient que l'on pouvait s'aimer avant, elles s'estompent, on a du mal à les voir, parce que nous sommes devenus comme trop identiques l'un à l'autre. On a perdu toutes nos différences qualitatives, tout ce qui faisait que nous pouvions nous aimer et toute la différence qu'il y avait entre nous. Nous sommes devenus un seul et par là même trop identiques. Alors, il y a chez Maître Eckhart quelque chose que j'ai lu et qui m'a beaucoup parlé. Maître Eckhart, c'est un philosophe du Moyen-Âge. Il fait une distinction justement entre égalité et similitude. Comment ne pas devenir l'égal de l'autre, mais peut-être son similaire? Et alors, quelle est la différence? Évidemment, c'est encore peut-être un des matériaux pour un amour non narcissique. L'égalité, pour lui, ça a une signification précise. C'est quelque chose qui s'épuise justement en comparaison. Tu cherches à te comparer toujours à l'autre dans l'égalité. Tu cherches toujours à voir est-ce que lui a moins ou est-ce que lui a plus. Et tu cherches à équilibrer la balance de la comparaison. L'égalité, elle cherche qu'à pointer au présent, notre valeur présente aux yeux de l'autre. L'égalité, c'est donc vouloir trouver une approbation chez l'autre de ce que l'on fait, de ce que l'on est, que l'on n'est pas moins que lui, que l'on n'aime pas plus que ce qu'il nous aime, etc. Bref, on ne cesse de se comparer. Alors que la similitude, pour Maître Eckhart, c'est autre chose. Elle dit plus. Elle pointe d'un côté en amont, elle se rappelle de l'origine, de ce qui fait qu'on s'aimait, les différences qualitatives qui ont fait justement qu'on a pu s'aimer. Et en aval, elle tend vers une plus grande compréhension réciproque. Maître Eckhart dit que la similitude, elle est d'un côté exode et de l'autre repos. Exode, c'est une aventure en cela qu'elle anticipe ce qui n'est pas encore là. Elle prévoit, elle promet quelque chose qui n'est pas encore là. Elle tend vers lui, elle tend à abandonner les différences. Et en même temps, elle est le lieu où on se repose, parce qu'elle habite ce qu'il y a là, le présent maintenant, ce qui fait la relation ici et maintenant. Et je vais finir là-dessus. C'est peut-être au fond cela le problème au creux de notre relation amoureuse et qu'on aimerait discuter aujourd'hui. Comment continuer donc du coup à être amoureux, à s'aventurer dans le monde, à aller voir, à y être comme un fou sans détruire nos relations amoureuses? Comment ne pas nécessairement rêver que nous ferons ces choses à deux, ces choses ensemble, en ayant un rapport entre nous et un rapport au monde, et puis le monde, que le couple ne soit pas un rapport tellement entre deux personnes, mais un rapport entre deux personnes et le reste du monde, mais que celui-ci, le couple, ne soit pas non plus notre repos du monde, notre arrière-garde, l'endroit où on vient déposer les armes face au combat perpétuel contre le monde. Comment conjuguer ces blessures qu'on est en train de vivre dans l'amour, en un art d'aimer qui ne nous affaiblisse pas davantage, et comment cela prend place dans notre politique, dans nos luttes qui sont toujours des rapports d'amour, comment écrire enfin le roman non existant qui conjugue autonomie et besoin d'amour.
Et tout ce que tu nous as dit là, du coup, ça te faisait penser à une chanson, non, que tu voulais qu'on passe ?
Absolument, gracias à la vida, parce qu'on ne dit jamais assez merci à la vida.
Une transition. Bon, et du coup, on écoute gracias à la vida dans la version de John Bates.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído y en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Montañas y llanos y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
La Rouscaille.
Ay, tu, tu, tu. Ay, ay, tu, tu, tu. Ay, ay, ay.